Cent ans. Cent ans que la Grande Guerre a été déclarée. On ne manque pas de commémoration pour le rappeler. On parle de chiffres, de millions de morts, d'après, de suite, d'Europe. Mais rarement on nous parle d'humains, de vécu, de ce que c'était. Le livre d'Andrea Slatsko, Hommes en guerre, aux éditions Agone, est là pour nous rappeler ce que c'est que d'être un humain au milieu d'un monde à feu et à sang. Qui était Andrea Slatsko? Il était écrivain, journaliste, né à Budapest, en Hongrie, en 1876. Il a suivi dans l'impériale et royale armée de l'Autriche-Hongrie comme volontaire d'un an et était un officier de réserve de la Ersatzer. La Première Guerre mondiale l'appellera sur le front de l'Isonzo, un fleuve dont le trajet parcourt l'ouest de la Slovénie et le nord-est de l'Italie. Ceci explique que cette région soit le théâtre de la majorité des nouvelles qui composent Hommes en guerre. Il sera gravement blessé à Gorizia, en Italie, et attrapera, en prime, la malaria. S'ensuit une hospitalisation de 8 mois, puis une convalescence à Davos, en Suisse, à la fin de l'année 1916. C'est là qu'il rédige son œuvre majeure. Il s'installera ensuite à Berlin et continuera son travail d'écrivain. À l'arrivée au pouvoir d'Hitler, ses livres sont brûlés dans les autodafés car considérés comme antipatriotiques et contre-nature. Andreas Latzko meurt à New York en 1943. Pour les 2 heures qui suivent, nous vous proposons donc les lectures de 3 des 6 nouvelles issues du livre Hommes en guerre d'Andreas Latzko. La première, nommée Le départ, la seconde sera La mort du héros, et la dernière, intitulée Le retour. Et entre chaque lecture, vous entendrez 2 titres antimilitaristes. Avant de vous laisser en compagnie des lectures, je tenais à remercier toutes celles et ceux, animateurs, animatrices et amis de Radio Canut, qui ont prêté leur voix et rendu possible ce projet.
C'était à l'automne de la deuxième année de guerre, dans le jardin de l'hôpital d'une petite ville autrichienne couchée au pied de collines boisées comme au bas d'un paravent. Jour et nuit sifflaient les locomotives, roulaient vers le front les trains lourdement chargés, emmenant des soldats braillants aux casques fleuris, des bottes de foin empilées, du bétail mugissant destiné au ravitaillement, de sombres wagons soigneusement clos remplis de munitions. D'autres trains rampaient dans l'autre sens, marqués de la croix sanglante que la guerre avait inscrite sur les wagons comme sur leurs occupants. À pas de géant, la grande rage traversait la petite ville sans en bannir le calme. On aurait dit que les maisons basses et proprettes accordaient en silence leurs façades vieillottes pour ignorer superbement l'intrus avide et tapageuse qui bouleversait le monde. Dans le jardin public, les enfants jouaient en toute sérénité avec les grandes feuilles roussies qui s'envolaient des marronniers. Quelques femmes bavardaient sur le seuil des boutiques. Les ruelles s'animaient du froufroutement des jeunes filles, coiffées de mouchoirs bariolés, qui s'appliquaient énergiquement à frotter les carreaux des fenêtres. Les drapeaux de la Croix-Rouge avaient beau flotter sur de nombreuses maisons, la guerre avait eu beau afficher ses décrets sur presque tous les murs, la paix semblait régner dans les rues de la petite ville, toute proche pourtant du carnage, puisqu'à peine 50 kilomètres l'en séparaient, et que, parfois, dans les nuits claires, sa lueur fulgurante embrasait l'horizon comme un feu d'artifice. Les troupeaux trépidants de véhicules à chevaux et de camions automobiles s'arrêtaient-ils un instant? Le passage des trains cessait-il de faire trembler le pont, les clairons, Le cliquetis des sabres se taisait-il ? La petite ville têtue reprenait aussitôt son visage placide, quitte à remettre précipitamment son masque militaire, lorsqu'à la minute suivante, une fougueuse automobile d'état-major tournait à toute allure le coin de la rue. Dans le lointain, le roulement énorme du canon faisait songer au grondement d'un dogue tapi dans les entrailles de la terre et prêt à bondir. L'aboiement sourd des mortiers ressemblait à une toux rauque venant de la chambre d'un malade et tourmentant ceux qui veillent dehors, les yeux rouges de pleurs. Les alignements de maisons basses vibraient chaque fois que cette toux convulsait le sol, comme si le fléau de la guerre, tel un mauvais génie, s'était assis sur la poitrine de la terre. Éclairés par la lueur tremblante des veilleuses qui, à l'intérieur des maisons, poussaient des ombres prestes vers les rangs serrés des lits, les rues se regardaient, surprises. Parfois, la nuit était striée de cris aigus et de plaintes qui s'échappaient des salles combles. Les fenêtres, grandes ouvertes, laissaient passer ces bruits humains. Chacun d'eux lançait une accusation féroce contre la guerre qui besognait là-bas, rejetant derrière elle des détritus sanglants, de pauvres corps déchiquetés. Pendant ce temps, sur les places, les fontaines de fer forgé écoulaient sans répit leur doux murmure, se racontant leurs jours de jeunesse, quand les hommes savaient le prix des lignes pures et des belles formes, quand la guerre n'était que jeu de princes et d'aventuriers. La légende montait, tournoyait, sortait de tous les recoins, s'élançait le long des ruelles, fait invisible qui faisait chuchoter le bonheur et la paix. Les vieux marronniers penchaient tout doucement leur front, et l'ombre de leurs branches rassurait la maison. Surgit des murs lézardés, le passé devenait si présent que le bruissement de la fontaine semblait dominer le tonitruement du canon. Les malades étendus dans la fièvre écoutaient la nuit et respiraient son apaisement. La figure blafarde des blessés qu'on transportait dans le balancement mou des civières se décrispait. Ils oubliaient l'enfer. Et les pesants troupeaux, qui à marche forcée, dans la nuit, partaient au sacrifice, donnaient l'impression de se réveiller ici, comme si chacune des victimes se fût imaginée sans armes, dans ce décor de paix, à l'ombre des fenêtres, en encorbellement et des balcons fleuris. La guerre était pareille à ce torrent venu du nord qui jaillissait de la montagne avec frénésie. Là-haut, le moindre caillou de la route faisait écumer sa fureur. À l'autre bout de la ville, ils s'éloignaient tranquillement, unis et débonnaires, comme si toute la rêverie qui s'y était reflétée l'avait endormi. Paresseux dans son lit plus large, il pénétrait dans les prairies et traçait une boucle autour de l'hôpital militaire qui, à l'ombre de ses platanes, semblait bâti sur une île. De trois côtés, le murmure des flots paisibles se mêlait au frisson des feuilles, comme si le jardin eût modulé pour les torturer la berceuse de la pitié. Martyrs, dont la souffrance restait disciplinée jusqu'à la mort, réglementés jusqu'à la fosse où on les jetait pêle-mêle, cordonniers, plombiers zingueurs, copistes, valets de ferme, en les saupoudrant de mots glorieux et de salves assourdissantes. Le clairon de la retraite venait de sonner. La patrouille faisait sa ronde. Elle surprit trois hommes attardés dans l'obscurité de la grande allée, les poussa devant elle. « Qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes officier ou quoi ?» grommela, d'un ton paterne, le chef de la patrouille, vigoureux caporal de territorial aux tempes grisonnantes. « La troupe, au lit à 9 heures, c'est le règlement. » Et il ajouta, avec une sévérité mal jouée. « Compris ?» Il allait employer la formule d'usage pour les forcer à tricoter des jambes, mais il la retint sur ses lèvres en grimaçant. Les trois retardataires qui se traînaient docilement vers l'accès réservé à la troupe auraient bien voulu pouvoir tricoter des jambes. Pour marcher, ils possédaient à eux trois 6 béquilles et 2 pieds. On aurait dit qu'un metteur en scène soucieux de symétrie avait réuni là, pour un curieux tableau vivant, l'homme placé à droite, réduit à sa jambe droite, à gauche, son pendant, sautillant du pied gauche, et au milieu, jugé sur 2 béquilles, les jambes de son pantalon croisées et épinglées sur la poitrine, un malheureux tronçon humain, si court qu'on aurait pu le coucher dans un berceau. La tête basse, les poings serrés, accablé par cette misère, le caporal examina le groupe, marmonna un juron qui n'avait rien de patriotique, et lança un long jet de salive qui siffla entre ses dents et retomba très loin. Alors qu'il retournait de l'autre côté du jardin, là où se trouvait le bâtiment des officiers, un déchaînement de rire parvint à son oreille. Il s'arrêta, rentrant la tête comme sous l'effet d'un choc, et sa figure de paysan s'alluma d'un éclair de haine. Il cracha de nouveau, et prenant son élan, passa devant la joyeuse compagnie qu'il salua vigoureusement. Messieurs les officiers lui rendirent son salut avec négligence. Ils étaient là, pénétrés par cette douceur de vivre qui planait au-dessus de la petite ville, assis sur quatre bancs disposés en carré devant la maison, et devisant gaiement de la guerre en écoliers qui se souviennent de la terreur des examens passés. Chacun ayant fait son devoir, ayant payé sa part et se sentant protégé par sa blessure, se confinait dans la voluptueuse attente de la permission, du retour au foyer, des retrouvailles avec les êtres chéris, des félicitations, et dans l'espoir de vivre deux semaines entières, sans être un numéro. Celui qui riait le plus fort était un jeune lieutenant que sa coiffure d'officier de régiment bosniaque avait fait surnommer le musulman. Sa jambe gauche, brisée par un éclat d'obus, était immobilisée depuis des semaines dans une gouttière de plâtre. Ce plâtre, il le soignait et le dorlotait comme un objet précieux. Deux officiers étaient assis sur le banc qui faisait face aux musulmans. Un capitaine de cavalerie, atteint par une balle au bras droit, et un officier d'artillerie qu'on appelait le philosophe, parce qu'il était professeur de philosophie. Ce dernier avait un bec de lièvre déjà cicatrisé, taillé par un éclat de grenade. Avec les deux dames assises contre le mur, les trois hommes faisaient les frais de la conversation. Le quatrième, un lieutenant de territorial au crâne dégarni, compositeur d'opéra réputé dans le civil, ne participait pas à la discussion. L'air sombre, l'œil hagard, un tremblement parcourant tous ses membres, il se tenait à l'écart. La semaine précédente, on l'avait ramené du plateau de Doberdo en état de choc. L'horreur habitait son regard. Farouchement replié sur lui-même, il se prêtait avec docilité à tout ce qu'on voulait, se couchait, s'asseyait dans le jardin, mais un mur invisible où se fixaient ses yeux le séparait du monde. L'arrivée imprévue de sa femme, une ravissante blonde, n'avait même pas pu l'extraire de la vision qui le hantait après avoir emporté sa raison. Le menton contre la poitrine, sans un sourire, sans un geste, il laissait s'écouler le flux des paroles tendres de sa femme, et lorsqu'elle cherchait, dans son tourment, dans son amour, à frôler du bout des doigts ses pauvres mains tremblantes, il avait un haut-le-corps. De grosses larmes se mirent à couler sur les joues de la jeune femme. Elle avait eu tant de mal à se frayer un chemin à travers les zones interdites jusqu'à cet hôpital, et maintenant, passé la première joie de le voir vivant, intact, un mystérieux obstacle se dressait devant elle, et ni ses pleurs, ni ses supplications ne pouvaient le franchir. L'angoisse la faisait se pencher vers son mari. Elle s'approchait encore un peu plus, cherchant avec obstination le secret de cette hostilité dont il semblait pétri. Ses yeux fouillaient l'obscurité, ses mains se tendaient à tâtons, s'avançaient timidement, puis reculaient dès qu'un mouvement de l'homme l'atteignait comme une brûlure, la rejetant dans son désespoir. Comme c'était dur de devoir contenir sa peine, de ne pouvoir, dans un cri, percer le secret qui séparait son mari de son seul soutien. Que c'était dur aussi de soutenir cette conversation frivole, de feindre la joie des retrouvailles, de répondre aux questions, de ne pas s'impatienter du rire perpétuel de l'autre femme. Quelle chance elle avait celle-là. Son mari pelotonnait à l'arrière, à un poste important. Elle avait fui l'ennui d'un foyer sans enfant pour partager la vie excitante de l'hôpital. Dès 7 heures du soir, on la voyait habillée, chapeautée, prête à partir, mais se laissant toujours convaincre de rester, badinant joyeusement comme si elle avait déjà oublié les souffrances dont elle avait été témoin au cours de la journée dans cette maison à laquelle elle s'adossait. La jeune femme triste respira dès que la nuit fut assez dense pour lui permettre de s'éloigner de la bavarde sans se faire remarquer. Et cependant, malgré sa vanité et l'importance qu'elle accordait à ses devoirs d'infirmière, Madame la commandante était pénétrée d'un sentiment qui la dépassait. La grande vague d'affection maternelle qui saisit le cœur féminin quand l'homme est en danger l'emportait, elle aussi. Ces trois hommes, qui faisaient autour d'elle un cercle attentif et bruyant, elle les avait vus, comme des milliers d'autres, tout maculés de sang, inertes, gémissants, et la joie de la poule qui voit s'ébattre ses poussins attiser sa coquetterie. Depuis que les hommes sont enceints de leur propre cadavre comme la future maman de son bébé, les femmes se sentent les plus fortes, la mort les excite à la maternité. Remplie de chagrin, à peine sortie d'un endroit où la guerre était pure conversation, la jeune femme blonde se sentait perdue dans ce jardin plein de nuit, de souffrance et de mort. Les autres étaient chez eux dans la guerre, ils parlaient son langage en y mêlant une âpre rage de vivre. L'étrange douceur qui envahit le mâle lorsqu'il est repu de brutalité, et la froideur bavarde de la femme dont la curiosité semble se transformer au spectacle du sang en voyeurisme sadique. Le musulman et le capitaine se moquaient du philosophe, raillant ceux qui coupent les cheveux en quatre et cherchent midi à 14 heures. Comme des gamins, ils savouraient l'embarras souriant de la commandante, dont la tendresse féminine défendait la bonté désarmée du philosophe, tandis que ses yeux, brillants de sympathie passionnée pour leurs propos virils, décochaient des flèches de lumière aux autres. « La guerre est une chose horrible, » roucoula-t-elle. « C'est lui qui a raison. Laissez-le donc tranquille. Il plaisante, lieutenant. » Et elle lui jeta un regard apaisant. En signe d'approbation, le philosophe eut un sourire flegmatique. Le musulman, qui en serrant les dents assurait sur le banc la position de sa jambe dont la blancheur ressortait dans la nuit, éclata de rire. « Mais qu'est-ce que le philosophe peut bien savoir de la guerre? Ce n'est qu'un artilleur, et la guerre est faite par l'infanterie. Voyez-vous, madame la commandante ?»« Ici, je suis l'infirmière Engelbert, » l'interrompit-elle, le visage devenu grave. « Pardon, madame l'infirmière. Vous comprenez, l'artillerie et l'infanterie sont comme l'homme et la femme. La victoire, c'est nous, l'infanterie, qui la mettons au monde. L'artillerie n'a que le plaisir, comme l'homme en amour. Quand l'enfant est baptisé, elle se pointe en carrosse. Vrai ou pas, capitaine? Tu es de la cavalerie à pied, toi aussi, maintenant ?» Le capitaine approuva bruyamment. D'après lui, les socialistes, les pacifistes, les députés qui pinaillent sur les crédits accordés à l'armée, tout ce qui parle et qui écrit, tout ce qui pense et qui en vit, était à mettre dans le même sac que le philosophe. « mais si, disait-il de sa voix éraillée, un philosophe, c'est bon pour l'artillerie. Une fois planté sur une hauteur, ces messieurs observent. Si encore ils ne carnadaient pas nos hommes, avec les macaronis d'en face, on s'en est toujours sorti. Mais quand on vous sentait sur notre dos, vous autres, bande de massacreurs, on avait le cul serré de trouille. Bon, assez parlé guerre où je vais au lit. Pas la peine d'être avec deux femmes charmantes et de regarder enfin des visages sans barbe, si c'est pour ne parler que de coups de fusil. Condieu, quand la première petite blonde a mis le pied dans le train ambulance, avec sa jolie coiffe blanche sur sa tête frisée, j'aurais donné cher pour pouvoir lui prendre la main et le regarder tout mon saoul. Juste la regarder. Sur mon âme, chère madame la commandante, la mousqueterie se fait fort fastidieuse, à la longue, nos amis les poux de même, mais le pire, si vous m'en croyez, c'est le manque absolu de gens féminines. Ne voir que de l'homme pendant 5 mois, et puis là, boum! Entendre enfin une adorable voix de femme, merde, c'est le plus beau, rien que pour ça, la guerre, ça vaut le coup. » La figure expressive du musulman, rayonnante de jeunesse, dessina une moue. « Le plus beau ? Sincèrement, je vais te dire, ce n'est pas ça, mon capitaine. C'est de sortir du bain, avoir un pansement tout neuf, se retrouver dans un bon lit bien blanc en se disant qu'on en a pour un petit bout de temps à être pépère. Rien ne vaut ça. C'est sûr que voir les dames, c'est bien aussi. » Le philosophe inclinait sa bouille d'épicurien, ses tout petits yeux pétillaient en un scintillement humide, et, en fouillant l'obscurité presque palpable où la robe blanche de la commandante faisait une tache lumineuse, il proféra lentement, d'un ton doux et chantant, « Pour moi, le plus beau, c'est le silence. Avoir été là-haut, sur les montagnes, où chaque coup de canon est répété 5 fois, et retrouver soudain la perfection du calme, le calme sans coup de tonnerre, sans sifflement, sans hurlement, rien que le calme, qu'on écoute se dérouler comme une symphonie. Les premières nuits, je restais éveillé, assis, J'écoutais le silence comme un chant lointain qu'on essaie de comprendre. Je crois même que je me suis mis à gémir tellement c'était beau d'écouter qu'il n'y avait rien à entendre. Le capitaine jeta sa cigarette, qui, telle une comète, traversa la nuit dans un éclaboussement d'étincelles, et se tapant la cuisse. « Eh bien, vous y comprenez quelque chose, vous, madame la commandante ? Écoutez qu'il n'y avait rien à entendre. C'est ça, voyez-vous, qu'on appelle la philosophie. Moi, je connais un truc bien plus beau, c'est de ne pas écouter ce qu'on entend, surtout quand c'est une ânerie. » Ce fut un éclat de rire général, et celui qui était visé riait aussi fort que les autres. Lui aussi était imprégné de la douleur qui s'exhalait de la ville endormie et flottait dans ce jardin d'automne. Les flèches acérées du capitaine lui tombaient dessus sans trouver prise, et rien n'aurait pu l'empêcher de profiter des jours qui lui restaient avant de repartir au front. Il voulait en jouir pleinement, sucer chaque instant jusqu'à la moelle, les yeux fermés, comme un enfant qui sait qu'après, on va l'enfermer dans le cagibi. Frémissante, la commandante se penchait. Vous n'êtes pas d'accord sur ce qu'il y a de plus beau. Son souffle s'accéléra. Mais sur ce qu'il y a de plus affreux là-bas. Pour beaucoup, c'est le tir de barrage. Pour d'autres, c'est le premier homme qu'ils ont vu tomber. Et vous ? Le philosophe auquel la question s'adressait eut une expression de martyr. Cette question n'entrait pas du tout dans son programme. Il cherchait une réponse évasive, lorsqu'un cri inhumain, une sorte de râle, attira tous les yeux vers l'endroit où étaient assis l'officier territorial et sa femme. À cause de l'obscurité, on les avait presque oubliés. Les regards effarés s'interrogeaient quand l'homme, les yeux éteints, pareil à un pantin démantibulé, dit fébrilement d'une voix stridente. « Affreux ! Mais il n'y a que le départ qui soit affreux. On vous laisse partir. C'est ça qui est affreux !» Un silence lourd et glacial tomba sur ses paroles. Même la figure réjouie du musulman se figea dans un embarras douloureux. Le tremblement de ce corps misérable, les sons rauques qui en sortaient comme des sanglots brisés, les avaient tous saisis à la gorge et faisaient battre leurs artères. La commandante était debout. Elle se souvenait de l'arrivée de cet homme. On avait dû l'attacher sur la civière. Son désespoir convulsif le secouait tellement que les porteurs ne pouvaient le maintenir. Quelque chose d'horrible avait dévasté l'esprit du pauvre diable, disait-on. La commandante eut peur d'un accès de folie furieuse. Elle pinça le bras du capitaine et, feignant la hâte, s'exclama. « Mon Dieu, le dernier train qui va partir ! Vite, madame, dépêchons-nous !» Tous s'étaient levés. La commandante passa son bras sous celui de la malheureuse jeune femme et insista. « Songez qu'il faut une heure pour regagner la ville si nous manquons le tram. » Désemparée, tremblante, la jeune femme se pencha pour dire adieu à son mari. Elle avait bien compris que ce cri s'adressait à elle. C'était un reproche affreux, un reproche mortel qu'elle ne comprenait pas. Elle le sentait reculer, se contracter au contact de ses lèvres, et la pensée de la nuit qui viendrait, la nuit interminable dans sa chambre d'hôtel, froide et si négligée, toute seule en face de son doute. Cette pensée la fit éclater en sanglots. Déjà, la commandante l'entraînait, la forçant à courir, ne la lâchant que sur la route, une fois le poste de garde franchi. Les officiers suivaient du regard les deux silhouettes éclairées par le réverbère, tandis que le roulement du tramway s'approchait. Le musulman saisit ses deux béquilles, cligna de l'œil d'un air entendu vers le philosophe, et bâilla qu'il était temps d'aller se coucher. Le capitaine, apitoyé, fixait le malheureux malade. Voulant se faire plaisir, il lui tapa sur l'épaule, et de son ton gaillard, « Bah, mon vieux, t'as une femme épatante, tu sais, mes compliments, hein. » Mais effrayé, il recula. Le pauvre torse rabougri, affalé sur le banc, s'était mis à tressaillir comme si une force incontrôlée s'y éveillait subitement. « Une femme épatante, ah oui, oui, une femme très courageuse !» Les lèvres tremblantes jetaient des mots en déroute, des mots qui écumaient. Pas une larme elle a versé quand on nous a enfournés dans le train. Elles ont été très courageuses, toutes comme nous sommes parties. La femme du pauvre Dill, pareil. Pour faire chic, elle lui a jeté des roses par la portière. Mariée depuis 2 mois. Les poings serrés, luttant contre les larmes qui lui raclaient la gorge, il riait âprement. Des roses, oui, des roses, avec des cris et des au revoir. Les bonnes petites patriotes. Le colonel a félicité Dill parce que sa femme avait été très brave au moment du départ. Tu comprends? Très brave, comme si on partait aux manœuvres. Les jambes largement écartées, titubant, le lieutenant était debout. Accroché au bras du capitaine, il le fixait de son regard égaré. Tu sais ce qui lui est arrivé au pauvre Dill? Moi j'y étais, hein, tu le sais? Perplexe, le capitaine regardait les autres. Allons-nous coucher, va, ne t'énerve pas comme ça, fut-il embarrassé. Mais le malade glapit triomphalement. Ah, tu sais pas ce qui lui est arrivé, Adil? Tu sais pas? Eh bien, on était tous les deux ensemble, comme toi et moi, maintenant. Et il voulait justement me montrer la dernière photo de sa femme qu'il lui avait envoyée. Sa brave petite femme, si pleine de courage. Hein? Elles ont été toutes courageuses, prêtes au pire. Et voilà justement qu'un 280 pète. Oh, loin de nous. À au moins 200 pas, on n'a même pas regardé. Tout à coup, je vois voler une chose noire. Dill s'affaisse, avec la photo de sa petite femme, pleine de courage à la main. Et dans sa tête est fichée une botte. Une botte avec la jambe d'un soldat du train que le 280 avait déchiqueté. Il s'arrêta, fixa victorieusement le capitaine. Puis il reprit avec une fierté haineuse, s'interrompant parfois, la voix obstruée. « N'a plus rien dit, le pauvre Dill, avec l'éperon dans le crâne. Un vrai éperon de service, grand comme une pièce de 5 couronnes. » Il a tourné les yeux, regardé tristement le portrait de sa femme, parce qu'elle avait pu permettre un truc pareil. Un truc pareil. Pour retirer la botte, nous nous sommes mis à quatre. Nous l'avons tournée et retournée, tu vois, jusqu'à ce qu'un morceau de cervelle vienne avec la botte, comme une racine qu'on arrache, comme un polype blanchâtre, crevé, là, sur l'éperon. « Bon, ça suffit !» cria le capitaine, qui partit en jurant vers la maison, suivi des yeux par les deux autres, qui auraient bien voulu en faire autant. Mais on ne pouvait abandonner ce malheureux. À peine le capitaine avait-il retiré son bras, qu'il s'était affalé sur le banc, la tête contre le dossier, geignant comme un enfant battu. Le philosophe lui toucha doucement l'épaule, lui parla amicalement pour le décider à s'en aller, mais soudain il se redressa, et avec ce qui semblait un rire de chien. « On l'a arraché, sa femme épatante, à nous quatre. Ce qu'on a tiré, jusqu'à ce qu'elle sorte, et c'est moi qui l'ai délivrée. Ça y est, elle est sortie. Elles sont toutes parties, la mienne aussi, partie. Nous les avons arrachées. Il n'y a plus de femmes, plus de femmes. » Sa tête branlante se pencha en avant. Les larmes coulaient sur son visage, indiciblement triste. Le capitaine survint, suivi du jeune aide-major de garde. « Maintenant, on va se coucher, » articula l'aide-major d'un ton sévère. Le malade releva la tête et fixa cette étrange apparition. Mais quand le jeune médecin eut répété la phrase à voix plus haute, ses yeux s'allumèrent soudain. Il opina. « Mais oui, faut y aller. » Il eut un long soupir. Nous devons tous partir. Qui ne part pas est un lâche. Pas de lâche, c'est compris? La mode est au héros maintenant. Pour aller avec son chapeau, être assorti à l'époque, la courageuse petite femme de Dill a voulu un héros. C'est le pauvre Dill qui a payé. Il a donné sa cervelle. Moi aussi. Toi aussi. Allons. Mourons, ron, qu'on nous a piétiné la bottine. Qu'on place les dames aux premières loges. Épatantes elles sont, ah oui, c'est la mode. Il souleva avec peine son corps maigre, en s'appuyant sur le dossier du banc, quêtant l'approbation sur les visages qui l'entouraient. C'est triste, hein? Demanda-t-il doucement. Puis, dans un soudain accès de rage, avec des cris aigus qui résonnèrent lugubrement dans le jardin. Quelle duperie, hein, quelle duperie! Je suis un bandit, moi, un égorgeur! J'étais pas bien au piano! Il fallait être doux pour leur plaire, sensible, plein d'égards. Et tout à coup, la mode change, ces dames demandent des assassins. Tu comprends ça, toi? À présent, il était debout. Sa voix se perdait peu à peu dans sa gorge, jusqu'à n'être plus qu'une plainte monotone, le boquet d'un ivrogne. La mienne aussi, pour être sûre, elle a été courageuse. Pas une larme. J'ai attendu. comme je l'ai attendu, son cri. Moi, j'étais sûr qu'elle allait crier, me supplier de descendre du train, de rester là, pour elle, d'être lâche. Mais elle n'a pas eu ce courage. Aucune ne l'a eu. Elle ne pensait qu'à crâner. La mienne aussi, pareil. Elle a agité son mouchoir, comme les autres. Ses bras tremblants se tendirent, comme pour prendre Dieu à témoin. « Tu veux le savoir, toi, ce qu'il y a de plus affreux ?» gémit-il à l'adresse du philosophe. « C'est la déception atroce du départ. Pas la guerre. La guerre est ce qu'elle doit être. Ça t'étonne, toi, qu'elle soit cruelle ?»« Le départ, ça, oui, ça nous a démolis. Leur cruauté à elles, ça a été une jolie surprise. Qu'elles aient eu la force de sourire, de jeter des roses, qu'elles puissent faire cadeau à la guerre de leurs maris, de leurs enfants. » Les garçons qu'elles ont bordés, caressés mille fois, qu'elles ont fabriqués elles-mêmes, la voilà la surprise, qu'elles nous aient livrés, expédiés pour ne pas se sentir gênées les unes vis-à-vis des autres, pour que chacune ait son héros. C'est ça, mon vieux, la grande désillusion. Tu crois, toi, qu'on serait partis si elles nous avaient pas envoyés? Tu crois ça? Mais demande donc au plus crétin des garçons de ferme pourquoi ils cherchent à décrocher la croix avant sa permission. C'est pour exciter la fille qui l'attend, pour en aguicher d'autres, pour pouvoir faire le beau devant les femmes et se les envoyer, rien que pour ça. Si elles nous avaient pas laissé nous empiler dans les trains, si elles avaient crié qu'elles ne voulaient pas d'assassins, aucun général n'aurait rien pu faire. Pas un gars ne serait parti si elles avaient crié qu'aucune ne coucherait avec un homme qui en a tué d'autres. Pas un, tu m'entends? Jamais je n'aurais cru qu'elles acceptent ça. Je me disais, elles font semblant, elles se retiennent. Mais quand on entendra le sifflement de la locomotive, elles vont crier, nous arracher du train, elles nous sauveront. Dire qu'elles auraient pu nous sauver et qu'elles se sont contentées de crâner. Et ça, partout, partout dans le monde. Il était retombé sur le banc, anéanti, labouré de sanglots, la tête roulant sur sa poitrine. Un cercle s'était formé autour de lui. Le vieux caporal de territorial était là, lui aussi, avec ses 4 soldats. Dans le bâtiment des officiers, toutes les fenêtres étaient maintenant éclairées, des silhouettes se penchaient, curieuses, vers le jardin. Le malade examinait avec anxiété les visages impassibles des étrangers qui l'entouraient. Il était exténué. Sa gorge sèche ne rendait plus de son. Sa main, cherchant secours, se tendit vers le philosophe, effondré auprès de lui. Le docteur jugea le moment propice. « Allons dormir, lieutenant. Les femmes sont comme ça. On n'y peut rien. » Sa bonhomie sonnait faux. Il voulait continuer à lui parler pour le distraire et l'attirer insensiblement dans le bâtiment, mais la surprise lui fit ravaler ses mots. La carcasse vacillante qu'il venait de redresser avec l'aide du philosophe bondit et tendit les bras si violemment qu'ils en furent tous deux bousculés. L'homme se tassa sur lui-même, en pliant les genoux tel un portefeuille lourdement chargé, et les veines saillantes, écumant de fureur, il répéta les mots du docteur. « Ah, elles sont comme ça, elles sont comme ça, mais depuis quand, hein ? Tu sais pas qu'il y a des suffragettes qui ont giflé des ministres, foutu le feu à des musées, qui se sont fait enchaîner au réverbère pour le droit de vote? Tu entends, pour le droit de vote? Et pour leurs hommes, rien. Pas un mot, pas un cri, rien. » Il resta un instant privé de souffle, terrassé par un désespoir sauvage. Puis il cria, luttant contre les sanglots, comme une bête aux abois. « Tu en connais une seule qui se soit jetée devant le train pour son mari ? Pas une qui ait insulté un ministre pour nous. Pas une qui se soit collée sur les rails. On n'a pas eu besoin d'en repousser une seule. Pas une à broncher. Pas une à tenter de nous défendre. Pas une dans le monde entier. Elles nous ont chassés. Elles nous ont cloué le bec. un bon coup d'éperon, comme à ce pauvre Dill. Elles nous ont envoyés là où on tue, là où on meurt, par vanité. Et toi, tu veux les défendre? Ce qu'il faut, c'est les arracher comme de la mauvaise herbe, jusqu'à la racine. Il faut s'y mettre à quatre, comme pour Dill. Il faut tirer, tirer à quatre, pour qu'elles sortent bien. Ah, c'est toi, le docteur. Tiens, ouvre ma tête. Je ne veux pas de femme. Arrache, tire. Alors il se frappa la tête avec son poing, comme avec un marteau, puis ses doigts crochus s'agrippèrent sur son crâne, dont il arracha en hurlant une poignée de cheveux. Sur un signe du docteur, les quatre soldats se jetèrent sur lui. L'homme hurlait, grinçait des dents, se débattait si fort qu'ils étaient tous quatre secoués comme des pantins. Le vieux caporal et le docteur durent intervenir à leur tour, et on parvint enfin à le traîner vers le bâtiment. Derrière lui, le jardin se vida rapidement. Accompagné du philosophe, le musulman boitilla vers l'entrée. Il s'arrêta sous le portique. À la lueur de la lanterne, il contempla gravement sa jambe dont le plâtre pendait, inerte, entre les deux béquilles. « Entre nous, philosophe, j'aime encore mieux ça. Tourner dingo comme ce pauvre Zig, à mon goût, il n'y a pas pire. Vaudrait mieux y laisser la tête entière. À moins qu'il s'en tire, qui sait ?» Le philosophe se taisait. Sa face débonnaire était blafarde, ses yeux pleins de larmes. Il haussa les épaules, et sans mot dire, aida son camarade à monter l'escalier. Arrivé dans le corridor, ils perçurent quelque part là-bas, loin dans le bâtiment, des claquements de portes, un cri sourd. Le calme se fit. Les fenêtres des officiers s'éteignirent, une à une, et bientôt le jardin ne fut plus qu'une île noire, indéchiffrable, que la rivière enlaçait en ondulant silence. De temps à autre, le vent d'ouest apportait, comme un écho lointain, la toux grondante du canon. Pour la dernière fois, le gravier crissa. La patrouille retournait au corps de garde. On entendit le juron étouffé d'un soldat qui rajustait sa tunique déchirée. Les autres, essoufflés, essuyaient leur front du revers de la main. Derrière eux, tête basse, pipe au bec, venait le vieux caporal de territorial. Comme il débouchait dans l'allée principale, une lueur embrasa le ciel et un énorme roulement qui pénétra jusqu'à l'intérieur de la terre ébranla les carreaux. Le vieux s'arrêta. Il écouta jusqu'à la fin, tendit le poing et cracha loin en sifflant entre ses dents. Puis avec un dégoût qui soulevait son être, « Chiennerie de merde !» We'll be right back.
Des bombes, des torpilles, des roquettes, des missiles, des grenades, des mines, des kits de démolition, des grenades fumigènes, des bombes incendiaires, des véhicules blindés, véhicules chenillés, calculateurs de bombardement. La Suisse exporte du napalm, des lance-gaz, des lance-flammes, des avions de chasse PC-7, PC-9, des Panzerhaubitzen.
Si vous achetez sur le site web, la livraison est gratuite.
Made in Switzerland, des armes qualité suisse, des armes qui tuent plus propre.
C'est tip top, c'est vraiment net.
Made in Switzerland, on habite dans un pays qui prône la paix, mais qui vend la guerre. Ponce Pilate, je pense Pilatus, petit avion sanguinaire. La Suisse s'en lave les mains.
Vous voulez des références ? Ces petits bolides ont cartonné dans le tiers-monde, au Tchad, en Birmanie, au Guatemala.
Oh oui, la Suisse est neutre. Elle fabrique des armes neutres qui tuent n'importe qui. Femmes, bébés, enfants, vieillards, animaux, ça tue même les soldats.
Les armes suisses sont peut-être un peu plus chères qu'ailleurs, mais c'est la qualité suisse. Et puis pour le paiement, on s'arrangera.
Made in Switzerland, des armes qualité suisse, des armes qui tuent plus propre.
C'est tip top, c'est extra.
Made in Switzerland, on habite dans un pays qui prône la paix, mais qui vend la guerre.